France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le Premier ministre britannique Boris Johnson se félicite cette nuit d'avoir obtenu un nouveau mandat fort pour réaliser le Brexit. Son parti conservateur est crédité d'une large victoire par un sondage à la sortie des urnes hier après les élections législatives anticipées. On sait d'ailleurs déjà que Boris Johnson a été réélu député de sa circonscription dans la grande banlieue de Londres avec un score en augmentation par rapport au scrutin précédent de 2017. Si les conservateurs confortent leur majorité, alors le Brexit, effectivement, devrait avoir lieu le 31 janvier prochain. En Algérie, en revanche, rien n'est sûr, bien au contraire. Entre manifestations et votes interrompus, la présidentielle s'est déroulée sous tension hier. Pour dénoncer la tenue du scrutin, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Alger. Elles appelaient au boycott de la présidentielle. Le taux de participation est le plus faible d'une élection pluraliste, près de 40% seulement. Deux personnes ont été tuées dans un rassemblement en Inde hier, lors duquel la police a ouvert le feu. Les manifestants protestaient dans ce rassemblement contre une nouvelle législation qui, selon les habitants, provoquerait un afflux de réfugiés venus du Bangladesh voisin. Le Parlement indien a en fait adopté avant-hier un projet de loi qui facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh ou du Pakistan, à condition qu'ils ne soient pas de confession musulmane. L'actualité en France, dominée toujours par la réforme des retraites, le gouvernement invite les partenaires sociaux au dialogue et le plus rapidement possible, alors que la grève s'installe dans les transports notamment. Des réunions pourraient avoir lieu dès lundi prochain pour négocier sur la réforme. Et puis, réunis hier, les dirigeants de l'Union européenne ont adopté l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. À cette date butoir, il faudra que l'équivalent des émissions de CO2 d'origine humaine soit retiré de l'atmosphère pour atteindre un équilibre. La Pologne est le seul pays à ne pas s'être engagé.
Les éditions Radio France présentent Les sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré, coédité par France Culture.
Chaque samedi à 10h, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannonet.
Chaque samedi, Concordance des temps vous propose, en dialogue avec les spécialistes les plus avisés, l'éclairage que les précédents historiques peuvent jeter sur notre temps. Épisodes, mutations, personnages qui trouvent dans l'actualité des résonances remarquables et souvent inattendues.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannonet, tous les samedis à 10h et sur franceculture.fr.
Sur France Culture, il est 6h03. Nous retrouvons Toufik Hakem pour un réveil culturel consacré ce vendredi matin à la bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Johan Swar et Christophe Blain qui viennent de ressusciter Blueberry, le héros mythique ou plutôt l'anti-héros par excellence et néanmoins mythique, créé en 1963 pour la revue Pilote par Jean-Michel Charlier au scénario et Jean Giraud au dessin, autant dire deux grands monuments de l'histoire de la bande dessinée franco-belge. Blueberry, le cow-boy, Blueberry, l'esprit rebelle de l'Ouest américain du milieu du 19e siècle, renaît donc dans une nouvelle aventure après des années d'absence dues notamment au décès de ses créateurs. Amertume Apache, tel est le titre de ce nouveau Blueberry signé par Blain et Swar, soit deux des plus grands auteurs de la bande dessinée contemporaine. C'est donc une reprise et en même temps, c'est une aventure qui s'annonce comme une des plus belles de l'ex-lieutenant de l'armée américaine. Voilà qui va rendre le vieux débat pour ou contre les reprises encore plus complexe. Toutes les reprises ne se valent pas, viendront nous dire dans cette émission sont l'auteur de bande dessinée Émile Bravo et le philosophe et romancier Tristian Garcia. Mais de fait, le nouveau Blueberry qui débarque dans nos librairies aura comme voisin le dernier Corto Maltese, repris par le tandem Juan Diaz Canales et Ruben Pelejero, le tout nouveau Black et Mortimer, La Vallée des Immortels 2 et le Astérix de saison, le tout frais Manir, livré par Yves Ferry et Conrad, la fille de Vercingétorix. On parlera donc des reprises, mais tout d'abord, on va saluer, comme il se doit, Amertume Apache, la nouvelle aventure de Blueberry, d'après une idée de Johan Swar, scénario de Johan Swar et Christophe Blain, dessin de Christophe Blain qui s'est également occupé des couleurs en compagnie de Clément Sapin. Une nouvelle aventure de Blueberry, Amertume Apache, est éditée chez Dargo.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Johan Swar et Christophe Blain.
Bonjour.
Alors, vous voilà devenus pour la première fois les parents d'un héros connu ou autrefois connu qui n'a pas été créé par vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous de redonner vie à Blueberry ? Christophe Blain ?
Fascination. On réexplore une fascination profonde, une fascination d'adolescent, parce que j'ai découvert Blueberry, moi j'avais 11-12 ans. Et j'ai découvert Moebius en même temps que Giroux. C'était un choc majeur. Qui a encore ses effets maintenant, sur lequel je vis encore. Donc c'était c'est une fascination, c'est jouer avec une fascination, il y a une forme d'accomplissement en faisant ça. Il y a une rencontre avec le gamin que j'étais à cet âge-là.
Jeanne Farr ?
Bah oui, c'est un travail. Si la bande dessinée est un art, c'est un exercice d'histoire de l'art. On a voulu étudier la génération qui nous a précédés et faire un travail en, j'allais dire presque talmudique parce que je peux pas m'en empêcher. En tout cas, c'est une étude. C'est bizarre, le western. Il y a plein de nouveaux westerns en cinéma, formidables. On les oublie dès qu'on les a vus. Ils ont beau être extraordinaires, ils impriment pas comme les John Ford et tout ça. La bande dessinée, c'est la seule discipline où le western est encore vivant. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a que des petits garçons ou des vieux petits garçons ? J'en sais rien. Mais le western en bande dessinée, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Là, oui. En plus, le fait de reprendre un personnage quand même un héros iconique de la bande dessinée.
Voilà. Et Blueberry, il a quelque chose de particulier, contrairement à Astérix par exemple. Astérix, il est solide. Du premier au dernier album, il a à peu près la même tête. Si on reprend Astérix, on sait comment le dessiner. Blueberry, il change de tête à chaque page de Jean Giraud. Donc c'est un art vivant, évolutif, qui répond au cinéma, qui répond à la littérature, qui répond à tout ça. Donc reprendre ça, c'est forcément pas copier. C'est forcément se dire, avoir une réflexion sur, d'abord sur le dessin réaliste, qui ne veut rien dire, mais qui est un sujet passionnant, et ensuite sur l'héroïsme viril, ou appelons-le comme on veut, en bande dessinée. Et après, pour des raisons plus intimes, Christophe a une fascination pour Blueberry, moi j'ai une fascination pour Christophe. C'est mon meilleur copain, c'est mon dessinateur préféré, on en joue, on fait des blagues d'habitude, mais là on a essayé de faire moins de blagues, on a essayé d'aller au fond de ce qui nous fascine l'un chez l'autre.
Then Cochise, and now the bloodiest Apache of them all, Old Sana.
Parlons un peu de l'histoire de cette nouvelle aventure de Mike Steve Donovan, alias Lieutenant Blueberry, et peut-être partir du titre de l'album, Amertume Apache, en hommage donc à Führer Apache, le western de Robert Aldrich, réalisé en 70, et qui lui-même faisait écho à un autre western du même Aldrich, réalisé en 1954, Bronco Apache. De quoi ça parle ?
Ça raconte l'histoire d'une... C'est un assassinat non prémédité, accidentel, mais assez abominable, commis par trois jeunes adolescents au bord d'une réserve indienne.
Et dans une adolescente, ce n'est pas rien de le rappeler.
Bien sûr. Oui, c'est une jeune fille qui commet l'abominable. Et ça va déclencher naturellement une vendetta parce que les personnes qui ont été tuées sont la femme et la fille d'un grand guerrier. Le guerrier, naturellement, va suivre son rôle et va déclencher une...
Et pourquoi un hommage au film de Robert Aldrich ?
Parce que on parlait de toute façon des guerres indiennes. On savait qu'on allait parler des guerres indiennes avec Johan et j'avais dit à Johan, tiens, regarde ce film. Et parce que la mélancolie qui est dans ce film, la mélancolie, la tristesse, correspondait tout à fait à l'état d'esprit qu'on avait en abordant cet album, et particulièrement l'état d'esprit dans lequel était Johan quand il a commencé à écrire l'histoire.
Mélancolique. Donc, comment reprend-on un personnage iconique de la bande dessinée, si intimement lié d'ailleurs à un monument, Jean Giraud? Est-ce qu'on postule auprès des ayants droit et éditeurs? On est choisi? On fait des tests? Jeune soir, Christophe Plain.
Alors, ça s'est passé de la façon suivante. Christophe et moi travaillons sur un projet de Corto Maltese qui s'est jamais fait. Mmh. Et nos camarades chez Dargaud, sachant ça, ont appelé Christophe en disant « Est-ce que vous voulez pas faire un Blueberry ?» Et dans le passé, Jean Giraud avait proposé à Christophe de lui écrire des Blueberry. Ce qui s'était jamais fait, mais on s'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd chez Dargaud. Et je me suis mis au travail complètement au service de Christophe, parce que Blueberry, c'est sa fascination, bien plus que la mienne. Et j'ai essayé de trouver quelque chose qui était relevant pour moi. Alors je me suis dit, ok, il y a une histoire tragique, il y a les limites du héros. Christophe m'a tout de suite dit, attention, n'oublie pas que son métier, c'est soldat. C'est pas lui le patron. Il a un gradé au-dessus de lui. Il a des hommes en dessous. J'ai essayé de caser assez souvent dans l'histoire les limites. Dès le début, il n'arrive pas à tenir son cheval. Il y a un moment, il dit, c'est pas à moi de prendre cette décision. Christophe a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis un Blueberry qui fait des blagues, qui sont pas drôles, qui sont des blagues pour rassurer ses hommes, pour créer de la chaleur humaine. Et finalement, on s'est posé des questions très réelles. On s'est dit, ok, qu'est-ce que c'est son métier? Où il vit? Il n'y a qu'une femme dans le camp. Ok, quand il est amoureux d'elle, il a le courage de lui dire, madame, ce qui nous arrive, c'est pas de l'amour. Donc, je dis pas qu'on a voulu faire du réalisme, parce que ça veut rien dire, ni en dessin, ni en écriture. Mais en tout cas, on a essayé d'y croire tous les deux.
On parle aussi de reprise avec vous à l'occasion de la sortie de ce Blueberry. Et je vous propose d'écouter Émile Bravo, qui, lui, a aussi sa petite idée.
Ben en fait ça dépend, je pense que si on fait une reprise en fait d'un univers qui appartient réellement à un auteur, c'est difficile à mon avis. Par exemple, comme je dis, moi je compare souvent la bande dessinée de l'écriture à de la littérature. On n'a jamais demandé à un auteur en littérature de à quelqu'un d'autre, une fois que la personne a disparu, de reprendre son œuvre. Et moi je vois un peu les choses comme ça. Alors moi en ce qui me concerne pour Dupuis, pour Spirou, c'est facile parce que c'est une sorte de franchise. Ce personnage appartient aux éditions Dupuis, donc c'est normal de le reprendre. Après reprendre un univers, pourquoi pas, ça dépend. En fait, vraiment, si la personne le ressent, de quelle façon elle le ressent. Mais je trouve que c'est rarement réussi. Jusqu'à présent, on a eu des choses qui ressemblaient plus en fait à des produits, plus qu'à des œuvres d'auteurs. Je sais pas. C'est à part peut-être le Blutch, qui n'est pas encore sorti, mais moi, ouais, ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est complètement là aussi, c'est complètement incarné. Et,
c'est bien sûr Tif et Tondu. D'ailleurs, c'est une des reprises les plus étonnantes, parce que on peut pas dire que l'argument commercial tienne. Hein. Ce sont des héros un peu moins prestigieux que les Astérix, Blueberry, Spirou, Lucky Luke. Tif et Tondu, qui s'en souvient?
Eh ben justement, c'est peut-être pour ça. Ben, moi, de toute façon, déjà, je pars du principe que pour faire des reprises, faut pas que ce soit un poids. Hein. Faut pas sentir qu'il y a une espèce de passif, que ce soit qu'on s'attaque à un monument. On reste dans le domaine de la bande dessinée quand même. Il faut prendre ça avec de la distance, et il faut surtout s'amuser, quoi. Je pense qu'il faut s'amuser. Faut pas essayer de faire comme un tel. Faut être dans ce qu'on appelle l'esprit, quoi. Et si on est dans l'esprit, tout va bien. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes en fait qui font des reprises se perdent en fait justement dans une sorte de, ils se créent eux-mêmes leur cahier des charges et ça peut être bon, ça devient peut-être un petit peu lourd à la lecture, je sais pas, ça fait pastiche quoi, c'est bien souvent. Enfin, je vais pas donner exemple. Hein.
Avez-vous déjà essayé, Émile Bravo, de proposer d'autres lectures des héros dits classiques de la bande dessinée?
Eh bien, figurez-vous qu'avec Johan Sfar, on avait proposé un projet au début des années 2000, et c'était un Blake et Mortimer. Et en fait, moi je me souviens que je trouvais ça assez passionnant comme histoire, parce que il y avait déjà plusieurs Blake et Mortimer qui étaient sortis, mais vraiment, Johan et moi, on considérait que c'était vraiment du pastiche, quoi. Il y avait peut-être autre chose à faire, et Johan avait trouvé une excellente idée. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite suivi. C'était de faire une histoire où en fait il était question en fait d'une cinquième dimension, que Blake était perdu dans une cinquième dimension qui était une nouvelle arme.
Et bon, et à la fin, bon, Mortimer le sauvait, et en gros, alors déjà c'était un conflit entre un militaire et un scientifique, au lendemain de la guerre, avec un nazi aussi qui travaillait pour ce projet et tout. Et c'est surtout en fait que Mortimer sortait Blake de le sauvait en fait, et finalement il n'avait absolument rien compris à ce qui s'était passé. En fait c'était une façon de dire, ces héros appartiennent à leur époque, les années 40, 50, foutez-leur la paix, parce que maintenant on ne peut plus rien, enfin ils ne peuvent pas comprendre le monde d'aujourd'hui, le monde du futur, et à partir de là, bah, c'était vraiment histoire de faire un one shot et de dire laissez tomber Black Mortimer, laissez-les dans leurs années, c'est tout quoi. Et il y avait une intrigue, elle est très Hitchcockienne, et c'était, et là vraiment ça avait un sens quoi. C'était un petit peu pour se foutre un peu de la gueule de ces reprises quoi. Et,
ça n'a pas marché, je suppose. Bah oui, ça n'a pas marché puisqu'on l'a pas vu cet album.
Bah non, il l'avait planifié, mais il nous avait dit ouais dans 5 ans, et on dit bon ça vous intéresse pas, donc on est passé à autre chose. De toute façon, lui, il avait son chat du rabbin à faire, et moi, j'avais les épatantes aventures de Jules, donc voilà, on avait du boulot personnel, quoi. Mais c'est dommage, parce que c'était vraiment, il y avait vraiment une idée très intéressante, puis c'était drôle.
Émile Bravo, auteur de bande dessinée, qui a repris à sa manière Spirou.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Comment vous réagissez, John Swartz? Parce que du coup, là, on apprend que, d'une part, vous avez essayé avec Corto Maltese et avec Christophe Blain, que vous avez essayé de reprendre Blake et Mortimer.
Non, c'est mieux que ça. C'est que moi, j'ai écrit du Blake et Mortimer pour Dargaud avant la première reprise de Blake et Mortimer.
Ah oui, avant même là.
Bien sûr. Il y a très longtemps, j'étais tout jeune auteur et je me voyais scénariste, et ça a été un de mes premiers travaux. Il y a une interview d'Hugo Pratt qui est lumineuse là-dessus, quand il parle de Corto Maltese. Il dit « Je voudrais qu'il arrive à mon Corto la même chose qu'à Batman, c'est-à-dire qu'il soit repris par quelqu'un comme Frank Miller qui me trahisse complètement. » C'est-à-dire que on n'a pas envie d'être copié, on a envie que nos personnages nous survivent, mais on n'a pas envie qu'un lecteur achète un Blueberry en croyant que c'est dessiné par Giraud. C'est pas respectueux pour Giraud, c'est pas respectueux pour le lecteur. On a envie que des auteurs prennent avec sérieux une œuvre existante et se disent qu'est-ce que ça dirait aujourd'hui. Donc le Batman de Frank Miller, pour moi, c'est l'idéal d'une reprise.
Puisqu'on parle des reprises, qu'est-ce que ça représente pour vous une reprise? Est-ce que c'est une consécration ultime, un défi à surmonter, un hommage aux maîtres qui ont chanté votre enfance, peut-être, ou tout simplement, avec plus de détachement, une manière de revisiter votre enfance?
Je prendrai un mélange. Je prendrai un mélange des trois dernières propositions que vous avez faites. Ouais. Un mélange de dommages, de défis. Il y a un vrai défi parce que Joanne et moi, on est sortis de notre zone de confort. On est restés totalement nous-mêmes en se mettant au service de Blueberry. Enfin, en prenant Blueberry pour ce qu'il était et aussi pour l'image qu'on en avait. Et ça, c'était fondamental. On est restés nous-mêmes et en même temps, on a essayé de on s'est poussé dans des retranchements et on a fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, aussi bien graphiquement que du point de vue du scénario. Et c'est ça qui était passé. Donc il y a un côté de défi.
Il y a un côté de défi. Jassar, vous aussi, défi, consécration pour l'argent.
Il y a cette façon de se cacher, de mettre un masque, de se déguiser pour dire des choses plus intimes que ce qu'on dirait d'habitude. Par exemple, dans Le Chat du Rabbin, je suis toujours dans une espèce de tendresse un peu enfantine. Le fait de me cacher derrière le réalisme apparent de Blueberry, je peux aborder l'âpreté de la vie d'adulte. Puisque quand on était enfant, on lisait Blueberry en se disant « Ah ben ça, c'est une histoire pour adultes. » Ce qui n'a aucun sens, c'est écrit pour des enfants. Ouais. Mais nous, on le voyait comme une histoire pour les grands. Donc on a abordé, je crois que Christophe comme moi, on a essayé de parler de l'amertume des adultes.
Alors maintenant, je vais vous proposer d'écouter Tristan Garcia, romancier, philosophe et à ses heures perdues, théoricien de la bande dessinée, à propos des reprises. Tristan Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous vous intéressez à la bande dessinée, vous dirigez même d'ailleurs une collection des livres théoriques sur le 9e art. Un vient d'être publié, c'est celui de Nicolas Tellop, consacré à Corto Maltese et plus précisément à Fable de Venise. Or, Corto Maltese n'est pas mort, le héros continue à survivre à Hugo Pratt. Que pensez-vous de ces reprises en bande dessinée, que ce soit Astérix, Lucky Luke, Spirou, Blueberry, bien sûr.
On pourrait se dire qu'il y a trois cas différents au fond. On pourrait s'imaginer qu'il y a des héros souples, des héros durs et des héros à trous en bande dessinée. Les héros durs, on les trouve principalement dans la bande dessinée franco-belge. C'est des héros qui sont très déterminés, qui sont localisés dans l'espace et dans le temps, qui ne vieillissent pas, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de famille. C'est Tintin ou c'est Astérix. Quand on les reprend, c'est très dur. C'est très dur de pas refaire la même chose, de pas bégayer. Les héros souples, c'est au contraire, principalement, les super-héros américains sont des créations souvent collectives, voire des créations industrielles, qui ont été faites. Ouais. Pour pouvoir être prise et reprise sans cesse. Donc il s'adapte, hein, il y a des reboots fréquents, comme on le dit dans le monde des super-héros, ce qui permet de les réactualiser. Ils sont extrêmement souples, hein, c'est Spider-Man ou c'est Superman, puisqu'ils ont une mythologie, ils ont un ensemble d'attributs, ils ont une histoire, mais qui peut s'adapter à des contextes différents, à des époques différentes. Puis il y a des héros à trous, et c'est le cas de Blueberry, c'est le cas de Corto Maltese. Ils ont une biographie, ils ont une histoire. Très souvent, on connaît leur naissance, on connaît leur mort. C'est le cas, puisque pour Blueberry, par exemple, Charlier avait rédigé, je crois que c'était en introduction de La balade pour un cercueil, une biographie de Blueberry. Donc, ça permet de connaître son enfance, sa jeunesse, sa mort. Et puis ensuite, il y a des trous. Comme pour Corto Maltese, c'est-à-dire il y a des moments, qu'est-ce qui se passe juste avant la balade de la mer Salée, qu'est-ce qui se passe entre 1919 et 1921, voilà. Donc c'est des personnages qui sont ni tout à fait souples, ni tout à fait durs, mais qui sont des personnages en pointillés, et quand on les reprend, on peut pas faire grand-chose d'autre que d'essayer de remplir les trous.
Et dans l'ensemble, que pensez-vous des reprises ?
En tout cas, dans le patrimoine de la bande dessinée européenne, là où ça laisse le plus de marge aux auteurs, c'est pour les personnages à trous, c'est les héros à trous. C'est Blueberry, c'est Corto Maltese, mais on pourrait penser à Valérian aussi. Hein. Mm-hmm. Il y a des trous dans la chronologie de Valérian. Larsenet en a fait un, par exemple, hein, que je trouve a été sous-évalué, qui était un bon album. Il y a le Tiffé tondu de Blutch, où il y a eu le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme aussi, par exemple. En revanche, pour les héros durs, les héros en dur, c'est très compliqué. Parce que c'est des héros qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas de biographie. Donc là, je vois pas très bien comment on pourrait faire, en tout cas sur le modèle américain, qui est devenu malheureusement peut-être le modèle de la reprise. Ouais, mais je vois pas très bien comment on peut faire avec ces personnages.
Certes, mais il y a un distinguo à faire quand même, Tristan Garcia, entre une reprise dans le style de l'univers de l'auteur avec un cahier des charges très strict, et puis une carte blanche. Je veux dire que quand Émile Bravo reprend Spirou, en fait, il reprend pas la série classique de Spirou. C'est une carte blanche avec Spirou.
Ah oui, mais la reprise de Émile Bravo, elle est géniale, mais tout le monde le sait, d'ailleurs Bravo le dit lui-même, c'est Tintin qui voulait faire. C'est un Tintin, en fait, ce qu'il a fait. C'est un Tintin, mais avec une houppette et avec un habit de groom. L'influence de Bravo, c'est Hergé. On voit bien qu'en fait, à part quelques attributs de Spirou, ou même de Fantasio, d'ailleurs, qui son Fantasio devient une sorte de Haddock, hein, colérique, énervé, qui jure... Moi, je trouve que c'est une œuvre géniale, l'œuvre de Bravo, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec Spirou.
Tristan Garcia, philosophe, romancier et théoricien de la bande dessinée.
Le réveil culturel.
Est-ce que vous avez l'impression de combler les trous? Mais tout d'abord, peut-être un mot de Joël Soir à propos de cette grille religieuse pour parler des bandes dessinées.
Mais bien entendu, moi je lis beaucoup plus de comics que de BD, j'allais dire occidentales. Ce qu'il y a de formidable chez les Américains, c'est que ça les dérange pas chaque semaine de raconter la même histoire de Batman depuis 70 ans. C'est vraiment comme quand mon père faisait la prière du Kiddush avant de boire son vin. C'est la même prière tous les vendredis soirs, mais il est content.
Vous voulez dire que les protestants et les juifs, c'est la même chose? Vous avez des super-héros?
Non, mais il y a des petites névroses communes. On aime bien ritualiser le quotidien. Bon, Blueberry ou Corto Maltese, puisqu'on en parle, ce sont des œuvres d'écrivains. Charlier, c'est Alexandre Dumas, Jack London, c'est Hugo Pratt. On sait très bien que si on travaille là-dessus, on est obligé de faire œuvre d'écrivain. Et c'est pas un lieu d'humilité, c'est pas un lieu où on se dit on se casse derrière.
Mais l'idée que ce soit des personnages à pointillés ou à trous,
c'est pas faux. Ils ont, on se pose des questions sur leur histoire, on se pose des questions sur leur style graphique. On sait que Charlier, comme Alexandre Dumas, se documenter mal mais avec passion. C'est-à-dire qu'il pouvait faire d'énormes erreurs historiques, mais c'était fait avec telle passion, avec telle gourmandise, qu'on a envie de construire sur ces erreurs. Donc pour nous, ce qui était important, c'est de pas dire à quelle année ça se passe, mais de dire c'est le moment où il est dans son fort, où il est encore à peu près soldat, où il s'est pas encore.
Alors comment vous avez rempli les trous ? Parce que moi j'ai l'impression que quand même, non seulement on reconnaît le trait de Blin, on reconnaît votre esprit, mais vous avez ramené quand même des thèmes très actuels. Hein. D'abord bien sûr les femmes. Vous allez me dire que toutes les reprises mettent les femmes en avant, mais vous avez eu cette idée géniale, c'est de donner aux femmes le même statut que les hommes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être, elles le sont dans cette aventure amertume, apache, capable du meilleur et coupable du pire. Il y a aussi le colonialisme. On a l'impression que vous avez été imprégné, comme nous tous, par les discours post-colonialistes pour écrire cette histoire. Et puis enfin, bien sûr, la machine qui est déjà là, la machine qui va peut-être battre l'homme dans un système de productivisme. Donc, l'actualité est là, Christophe Blin.
Je crois que tous les personnages de cette histoire sont prisonniers de leurs conditions et de leur rôle, en fait. C'est ça qui nous a guidés.
Et c'est un thème contemporain.
Oui. Et ils arrivent pas à s'en sortir, aussi professionnels soient-ils, aussi bons soient-ils, aussi cruels soient-ils ou aussi bien intentionnés soient-ils. Ils sont prisonniers de leur rôle et de leurs conditions. Aussi bien les hommes que les femmes, mais d'une façon différente. Et c'est ça que je crois que ça, on l'a pas décidé au préalable avant d'écrire, mais on avait ces choses-là en tête et on l'exprime en tout cas de façon en partie consciente et inconsciente.
Dans Quai d'Orsay, excellent album, ouais. Christophe Blin fait dire à Dominique de Villepin que Tintin n'aborde que des sujets essentiels dans ses albums. La conquête de la Lune, comme vous dites, le colonialisme, des choses comme ça. Là, c'est la même chose. On veut parler de sujets actuels. Mais on veut pas faire la leçon, on veut pas faire la morale au lecteur, on lui donne des outils avec lesquels jouer. Et effectivement, notre féminisme ne consiste pas à dire que les personnages féminins sont formidables. Ça, il consiste à dire qu'ils ont le droit de tuer autant que les hommes. Ça c'est intéressant comme outil.
Enfin, pour terminer, est-ce que dans le futur, vous êtes encore jeune, Christophe Blin et Joël Sfar, ce serait bien que d'autres personnes reprennent le chat du rabbin, Gus, ça serait pour vous un honneur. Vous allez pas me dire que vous êtes contre les reprises aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez une idée en tête du genre, oui, peut-être qu'il faudrait laisser un texte, des recommandations, au cas où d'autres auteurs voudraient récupérer et reprendre nos propres personnages, Christophe Blin?
Pour être très honnête, il me semble qu'à ce moment-là, je serai plus ou moins mort, donc peu me chaud. Ça sera peut-être le problème de mon fils, et je lui souhaite bien du courage. Mais très honnêtement,
pourquoi vous dites ça ? Vous avez c'est dur de négocier avec les ayants droit la reprise d'un personnage ?
Ah non, c'est pas que ça soit dur de négocier avec des ayants droit, c'est que ils en portent la responsabilité. Enfin, ils ont une responsabilité dans les mains, ou en tout cas, ils ont des choix à faire qui sont forcément.
En tout cas, vous ne laisserez pas de testament à la manière d'Hergé.
Ah, sur la façon de. Ah, si je devais faire quelque chose comme ça, ça serait dans le but de protéger mon fils et essayer de lui faciliter la tâche si ça devait être le cas. Ça serait bon signe que ces choses-là soient envisagées après ma mort, parce que même si peu me chaud, ça veut dire que, quelque part, j'aurais eu beaucoup de succès de mon vivant pour qu'on ait envie de le reprendre après ma mort.
Bah oui.
Et que mes personnages ne seraient pas oubliés. Donc de ce point de vue-là, oui, je serais très... Ça serait des problèmes... J'aimerais beaucoup que ces problèmes se posent, parce que ça voudrait dire que ma période, au moment où je suis vivant, est plutôt agréable.
Bon, j'ai du mal à imaginer qui pourrait reprendre le chat du rabbin, par exemple.
Quelqu'un qui aurait envie de le faire. Moi, j'adorerais que mes personnages me survivent, et j'adorerais que les repreneurs ne me copient pas. Et qu'ils aient... Et de toute façon, c'est simple. Quand une époque a quelque chose à dire sur un personnage, il s'en empare. Après, s'ils n'ont rien à dire, ça meurt tout seul.
Merci, John Sfar. Merci, Christophe Blin.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et sur franceculture.fr, vous pouvez même retrouver un article consacré aux reprises en bande dessinée Amertume Apache. Cette aventure de Blueberry qui vient de sortir en librairie, signée par Christophe Blin et Joël Sfar, est éditée par Dargo. À la page de l'émission Le Réveil culturel, vous trouverez aussi un lien qui vous guidera à une archive très très précieuse. C'est Jean Giraud qui dessine Blueberry en compagnie d'ailleurs, sous le regard amusé d'ailleurs de Hugo Pratt et de Jigé. C'était dans une émission de 1975 à la télévision, l'émission Tac au Tac. On se retrouve lundi et d'ici là, passez un excellent week-end avec France Culture. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abou. Bouchard avec ce matin à la technique, Louis Bardinet. Bonne journée sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Hashtag quand le témoignage prend la parole.
Toutes les semaines, réagissez sur les réseaux sociaux sur ce qui change votre vie. Renoncer à l'avion pour la planète, sauvegarder le patrimoine, vivre le handicap au quotidien, témoigner et compléter des interviews engagées.
Hashtag, c'est dès lundi sur les réseaux sociaux, le vendredi dans les matins de France Culture à 7h24 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Boris Johnson triomphe en Grande-Bretagne. Son parti conservateur obtient la majorité absolue au Parlement après les législatives d'hier. Le Brexit prend donc forme. Réaction depuis Londres et Bruxelles dans un instant. Nous irons ensuite aux États-Unis où une fusillade a fait 4 morts il y a 2 jours près de New York. La piste d'une attaque antisémite est retenue par les enquêteurs. La réforme des retraites en suspens en France. En tout cas, le gouvernement appelle à de nouvelles négociations avec les syndicats. Nous poserons la question de l'emploi des seniors dans ce journal. C'est un pas important, a priori crucial, pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Les Britanniques ont plébiscité le Parti conservateur hier lors des législatives anticipées. Il remporte la majorité absolue au Parlement. Le Premier ministre Boris Johnson se réjouit d'avoir obtenu un mandat fort, dit-il, pour réaliser le Brexit, ce qu'il avait promis en déclenchant ces élections. Boris Johnson s'exprimait cette nuit.
Je veux remercier les gens de ce pays pour avoir voté pour cette élection de décembre qui nous donne maintenant, avec ce nouveau gouvernement, la possibilité de faire changer ce pays et de finir le Brexit, et pas seulement le Brexit. Nous allons réunifier ce pays, le faire avancer en nous concentrant sur les priorités des Britanniques et avant tout sur le système de santé. Oui, nous allons recruter 50 000 infirmières supplémentaires et 6 000 médecins et nous allons reconstruire 40 nouveaux hôpitaux.
C'était le Premier ministre britannique Boris Johnson après sa victoire hier. Pour ce qui est de l'accord sur le Brexit, il avait déjà été trouvé avec les 27 pays membres de l'Union européenne il y a quelques mois maintenant. Une date est même sur la table, le 31 janvier prochain. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont prévu ce matin de discuter de ce futur accord. Ils sont réunis à Bruxelles. Cette nuit, la secrétaire d'État aux affaires européennes française Amélie de Montchalin a réagi à ce scrutin britannique. Elle a salué sa clarté sur la volonté des Britanniques.
Ce qui est certain, c'est que cette clarification semble avoir lieu. Ça nous amènera ici au Conseil européen d'avoir la discussion prévue, à savoir une discussion sur le mandat que nous donnons à nos négociateurs européens pour commencer à préparer les discussions sur la relation future. On le dit depuis des mois, voire des années, le plus important dans ce Brexit, c'est pas la manière dont on divorce, c'est ce qu'on a à construire ensuite, c'est le nouveau régime juridique qu'on veut construire pour nos échanges commerciaux, pour nos échanges industriels, universitaires, sécuritaires, de défense, culturels. On est des partenaires très proches. C'est un accord du libre-échange qui sera très particulier parce que je ne crois pas qu'au monde, il y ait des puissances aussi proches les unes des autres qui doivent construire reconstruire une relation commerciale de cette intensité.
Des propos recueillis par Angélique Bouin. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, cette nuit, le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn se disait très déçu. Il annonce d'ailleurs qu'il ne conduira pas le parti aux prochaines élections. La chef du parti libéral-démocrate, une formation pro-Europe, sa chef donc a perdu, elle, son siège de député hier. En Écosse, par ailleurs, la chef de file du parti national écossais qui a obtenu 55 sièges sur 59 réclament un nouveau référendum d'autodétermination de l'Écosse. Les Algériens attendent, eux, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui avait lieu hier. Un scrutin marqué par une abstention record. Près de 40% des inscrits ont voté seulement. Face au mouvement de contestation populaire qui appelait au boycott de cette présidentielle et qui avait poussé déjà à la démission le président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier. Premières analyses dans les enjeux internationaux de Julie Gacon, ce sera après ce journal. Donald Trump s'est dit hier très proche d'un accord avec la Chine pour mettre fin à leur guerre commerciale. Un différend qui dure depuis 19 mois maintenant entre les deux premières puissances économiques mondiales. Aucune confirmation officielle de cet accord n'a encore été faite, mais déjà hier, la bourse de New York a bondi après les propos du président américain. Les États-Unis encore, où l'enquête se poursuit après la fusillade qui a endeuillé Jersey City, juste en face de New York, de l'autre côté de l'Hudson River. Il y a deux jours, deux hommes ont tué quatre personnes dans une épicerie cachère. Ils ont été abattus dans la foulée. La piste terroriste d'un acte anti-juif a d'abord été écartée par les autorités, mais ce n'est plus le cas, Loïc Loury.
Les tireurs de Jersey City étaient animés par des idées antisémites, c'est ce qu'affirmait hier le procureur du New Jersey, Gourbir Grual. Mardi dernier, une très violente fusillade a opposé la police à deux suspects lourdement armés, retranchés dans une épicerie cachère, bilan 4 morts dont 3 à l'intérieur de cette supérette. Après avoir fait preuve de prudence, le procureur parle désormais d'un acte terroriste.
Nous pensons que les suspects avaient des idées qui reflétaient leur haine des juifs. Nous considérons ces faits comme de possibles actes de terrorisme intérieur alimentés par l'antisémitisme et des positions anti-police.
Plus d'une centaine de coups de feu tirés et des allures de scène de guerre avant que les deux suspects soient abattus. Dès hier, le maire de la ville, Stephen Fellop, affirmait que la supérette avait été délibérément prise pour cible.
Après avoir vu les images de vidéosurveillance, nous constatons que ce van avance lentement dans les rues de Jersey City. L'assaillant s'arrête en face, ouvre calmement la porte et avec deux fusils, lui et l'autre assaillant commencent à tirer depuis la rue sur le bâtiment.
Des faits qui inquiètent de l'autre côté de l'Hudson, à New York, où le maire évoquait dès mercredi une tendance croissante à l'antisémitisme violent. La protection a été renforcée autour des sites de la très nombreuse communauté juive new-yorkaise.
Travailler plus longtemps, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement français avec sa réforme des retraites présentée avant-hier. Il a été question d'instaurer un âge d'équilibre au-delà de l'âge légal de 62 ans, un âge pivot à 64 ans qui est rejeté par les syndicats, ils l'ont dit hier. Ils demandent notamment aux employeurs si les employeurs seront prêts à embaucher plus longtemps leurs salariés avec cet âge pivot à 64 ans. D'autant que la France, rappelle les syndicats, la France a déjà du mal à employer des seniors, Anne-Laure Jumet.
Le taux d'emploi des 60-64 ans est bien plus faible que chez nos voisins, 30% contre 42% dans la moyenne des pays de l'Union, avec des seniors plus soumis que le reste de la population active au chômage de longue durée. Pour corriger la tendance, le gouvernement prépare le terrain. Il a commandé un rapport sur le maintien des seniors dans l'emploi, qui sera remis en janvier, et veut lancer dans la foulée une concertation sur ce thème avec les partenaires sociaux. Le MEDEF avait en avril déjà exposé une solution, verser via l'assurance chômage une compensation à ceux qui acceptent un emploi moins bien payé que leur précédent poste. L'exécutif formule, lui, des pistes plus consensuelles, étendre les possibilités du cumul emploi-retraite, qui ne permet pas aujourd'hui d'acquérir de nouveaux droits en travaillant, ou encore simplifier la retraite progressive, ce dispositif qui permet de passer à temps partiel et de compenser presque totalement le manque à gagner grâce à la pension de retraite. Un dispositif encore méconnu qui n'a concerné que 18 000 personnes l'an dernier. Le gouvernement reprend également une idée lancée par l'association des DRH, instaurer dans les entreprises un index de l'emploi des seniors sur le modèle de l'index de l'égalité homme-femme.
Anne-Laure Jumet pour France Culture. Alors que le gouvernement appelle au dialogue avec les syndicats, le Premier ministre Édouard Philippe les invite d'ailleurs à un nouveau cycle de réunions le plus tôt possible, demande-t-il la semaine prochaine. La grève, elle, dans les transports se poursuit ce vendredi encore. La question est complexe, le sujet tabou. Doit-on lever le secret médical en cas de violence conjugale sans l'accord des victimes ? Cette mesure est envisagée par le gouvernement depuis la fin du Grenelle contre les violences conjugales à la fin du mois de novembre. Elle divise les professionnels de santé. Depuis hier et jusqu'à ce soir, ils se réunissent au sein du Conseil de l'Ordre des médecins, compte rendu des débats existants avec Mathieu Laurent.
En l'état, les médecins ne peuvent déroger au secret médical qu'au sujet de mineurs et de personnes définies comme n'étant pas en mesure de se protéger en raison de leur incapacité physique ou psychique. Que doivent-ils faire de la parole cadenassée de ces femmes qui ne souhaitent pas porter plainte ? Emmanuelle Piette est médecin, présidente du collectif féministe contre le viol.
Déjà, je pense que les médecins, quand ils signalent ou qu'ils font des certificats pour des femmes qui en ont besoin et qui le demandent, ne sont déjà pas pris au sérieux et pas entendus. Donc, la question que je pose, c'est à quoi ça sert de faire des certificats ou des signalements pour des femmes qui ne veulent pas, alors que quand elles veulent, ça sert à rien.
Emmanuel Piet se souvient de ces procureurs qu'elle a alertés et qui ont refusé de se saisir d'un dossier sans l'aval de la victime. Luc Frémiot, impliqué depuis de longues années dans la lutte contre les violences conjugales, était, il y a peu de temps encore, procureur à Douai. Lever le secret médical pourrait, selon lui, rompre le lien de confiance et...
C'est extrêmement complexe comme situation. D'un autre côté, un médecin qui va constater qu'une personne est véritablement battue au point, comment dire, de risquer sa vie, effectivement, on peut se poser la question de savoir si dans une hypothèse comme celle-là, il ne faut pas lever le secret médical. C'est une question presque de degré. Alors comment va-t-on apprécier le degré? Est-ce que ce degré, on va le confier à l'appréciation du médecin? Peut-être. Mais de toute façon, ça passe par une formation des médecins sur le sujet.
Premières auditions assurément riches en controverses pour une proposition de loi contre les violences conjugales en janvier à l'Assemblée nationale.
Le temps sera pluvieux ce vendredi sur l'ensemble du pays, mais des éclaircies devraient de temps à autre se faire une place. Pour les températures, Météo France prévoit 6 degrés ce matin à Strasbourg et à Lille, 7 à Paris, 9 degrés à Lyon, 15 à Perpignan. Le soleil brillera un peu plus ce week-end, notamment sur le sud de la France. Vous écoutez France Culture, il est 6h40, place aux enjeux internationaux avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Ce matin une question Julie, comment l'Algérie peut-elle aller vers un consensus national avec moins de 40% des électeurs au scrutin d'hier?
Oui, on ne connaîtra qu'en fin de matinée le résultat de l'élection présidentielle. Les seuls chiffres communiqués pour l'instant sont ceux de l'abstention qui était en somme le grand enjeu de ce scrutin, tant 39,93% des fois. C'est en tout cas les chiffres officiels. Depuis qu'a été annoncée la tenue de ce scrutin en septembre, les contestataires qui défilent chaque mardi, chaque vendredi avaient dénoncé un scrutin vide de sens organisé par la bande. Tous les candidats étant d'anciens ministres d'Abdelaziz Bouteflika. Bonjour Akram Belkaïd.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Monde diplomatique et chroniqueur au quotidien d'Oran. Vous faites partie du conseil scientifique de l'IREMO qui est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient. Est-ce que vous faites confiance déjà à ces chiffres? Pour l'instant, les seuls communiqués, l'abstention, 39,93% des voix.
Je prendrai ces chiffres avec beaucoup de précaution, en me disant que, ma foi, si on reste dans la tradition des scrutins précédents, c'est déjà un chiffre un peu trop élevé. Il peut paraître étonnant qu'une présidentielle...
10 points de moins que la dernière présidentielle.
Oui, c'est déjà 10 points de moins que celle de 2014, où, qui avait connu une grosse abstention. Et déjà à l'époque, je me souviens qu'on avait... Beaucoup d'observateurs avaient douté de ce chiffre, en estimant que moins de 50%. Mais il fallait garder les apparences sauves. Et là, cette fois-ci encore, 40%, en théorie, de toute façon, c'est déjà un chiffre faible pour un scrutin présidentiel. Mais je pense qu'il est surévalué, clairement.
Est-ce qu'on peut regarder déjà dans le détail? Vous avez le détail un peu géographique, région par région, de ce qui s'est passé. Mais quand bien même ces chiffres seraient surévalués, on a une idée quand même de ce qui s'est passé dans chaque région.
On a,
où est-ce qu'on a voté?
On a un taux assez uniforme d'une wilaya, donc un département à un autre. Ça donne la moyenne de ces 40%, exception faite bien entendu de la Kabylie où... le vote n'a pratiquement pas eu lieu puisque il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de gens ont boycotté clairement l'élection, même de manière physique, active. Certains bureaux de vote ont été fermés de force, dont d'autres ont préféré fermer pour des raisons de sécurité. Mais l'un dans l'autre, on se rend compte qu'on a des chiffres. C'est vraiment très provisoire. On a des chiffres inférieurs pour. On va avoir des chiffres inférieurs pour les grandes villes. Une ville comme Alger, par exemple, on ne peut pas prétendre qu'il y a eu un vote vu le nombre de personnes qui étaient dans les rues hier, qui ont boycotté. Et puis il y a aussi, je dirais, ces guetteurs que sont les réseaux sociaux. On a vu énormément d'images de bureaux de vote vides, mais vraiment vides, avec des gens qui étaient là et qui surveillaient. C'est un peu le même scénario qui s'est déroulé, je dirais, pendant les jours qui ont précédé à l'étranger, en France notamment, où... On a vu que dans certains consulats, il y avait une poignée de bulletins dans les urnes et pas plus. Et pourtant, on nous annonce quand même des chiffres un peu plus élevés. Donc, uniformité du vote, boycott quasi général en Kabylie et vote moins important en tous les cas dans les grandes villes.
Est-ce qu'on peut se demander qui a voté, de qui attendait-on un vote? Est-ce que, par exemple, les accusations du ministre de l'Intérieur qui, devant le Sénat, a qualifié les contestataires non seulement de mercenaires, de pervers et d'homosexuels, mais aussi de relais de la France coloniale, est-ce que cette insulte-là a pu porter et conduire certains Algériens à aller voter?
Non, je ne crois pas. Je crois que ce sont tout ce qui est excessif et négligeable, et cet homme s'est totalement déconsidéré parce qu'il représentait l'administration qui devait être neutre par rapport aux élections. Beaucoup d'Algériens ont été choqués, qu'ils soient pour ou contre les élections. Ce qui s'est passé, c'est que de toutes les façons, le régime s'appuie toujours sur un socle stable de gens qui ont une certaine loyauté vis-à-vis du régime. Vous avez notamment chez l'ancienne génération des gens qui voteront toujours parce que il y a cette tradition de loyauté à l'égard du système et du FLN. Donc ça fait à peu près entre 10 et 15% des électeurs qui, eux, votent de toutes les façons. Vous avez aussi des gens qui sont moins connectés à l'actualité. Je pense notamment aux populations nomades du Sud. Il y a des bureaux de vote itinérants, donc c'est beaucoup de ces populations votent traditionnellement, même si là aussi il y a eu de l'abstention. Et puis il y a une partie de la population qui n'est pas forcément contre le Hirak, donc le mouvement populaire, mais qui estime que le désordre a trop longtemps duré et qu'il est temps de passer à autre chose et qu'il faut absolument avoir un président et que la meilleure manière c'est d'aller voter. Et d'autres ont aussi réagi, vous parliez de déclarations du ministère de l'Intérieur. Je pense que d'autres ont été sensibles aussi à toute la campagne médiatique officielle qui a dénoncé les ingérences extérieures, et notamment la résolution du Parlement européen qui a appelé l'Algérie à mieux respecter les libertés individuelles. C'est un sujet très sensible en Algérie qui peut être mis en scène, et il a été mis en scène, et beaucoup de gens sont allés voter juste parce qu'ils pensaient que voter, c'est la meilleure manière de répondre à ce qu'ils pensaient être une ingérence inacceptable.
Alors, y aura-t-il un second tour? En tout cas, il y avait donc pour cette élection 5 candidats, tous issus des réseaux de pouvoir, tous anciens ministres de Bouteflika. Eux ne se sont pas encore prononcés sur les résultats, on ne les aura qu'à la mi-journée, mais leurs entourages, pour certains, revendiquent déjà la victoire. Mais second tour ou pas? Parce qu'on n'a pas de date,
ce
qui paraît surprenant quand même.
Oui, ouais. C'est le grand suspense. Oui, vous avez raison de relever qu'on n'a pas de date. Dans une élection, normalement, lorsque c'est une élection prévue à deux tours, on donne d'avance la date du premier et du second tour. Il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a jamais eu de second tour à la présidentielle. Tous les candidats, bien entendu, cooptés par le système, désignés par le système, sont toujours passés au premier tour. Je donne un exemple. En 99, Bouteflika, dont on pensait qu'il ne passerait qu'au second tour parce qu'il avait quand même tout de même 5 candidats de poids face à lui, et passé en force au premier tour. Donc là, pour le coup, si effectivement il y a un second tour, ce sera une nouveauté, ce sera une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante. On va voir. Ça posera de nouveau la question du boycott. Je ne sais pas si les autorités sont prêtes à encaisser une journée camouflée comme celle d'hier, parce que tout de même, le jour d'une élection présidentielle, avoir autant de gens, notamment dans la capitale, dans les rues de la capitale, qui contestent, qui disent qu'ils sont contre, sous les yeux des rares envoyés spéciaux étrangers, c'est tout de même, je dirais, une défaite pour un système qui a toujours réussi à imposer sa volonté en se fichant complètement des apparences. Là, pour le coup, c'est tout de même une défaite.
Et c'était pourtant couru d'avance. Ça fait des semaines que le Hirak dit, la mobilisation populaire, dit être contre cette élection vide de sens. Pourquoi les autorités ont maintenu le scrutin?
Oui, vous avez raison de relever ça. C'est une sorte d'aveuglement, une sorte de déni de la réalité. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques du système. Au cours des dernières semaines, lorsqu'on analyse de près les déclarations des uns et des autres officiels, notamment celle du général-major Ahmed Gaït Salah, on se demande si on parle du même pays, c'est-à-dire qu'il y a un déni de réalité totalement. Par exemple, il y a cette déclaration qui est revenue chez nombre de responsables algériens qui consistait à dire que les Algériens sortaient en masse dans la rue pour réclamer des élections. Ça fait rire tout le monde en Algérie. Mais voilà, c'est un système qui, de toutes les façons, ne s'est jamais embarrassé. Il veille à ce que les apparences soit sauve. Il veille à rester dans la normalité constitutionnelle et c'est pour ça qu'il a voulu ces élections. Mais en même temps, il n'a que faire, si vous voulez, des choses qui peuvent paraître totalement étranges, totalement bizarres, et notamment l'organisation d'une élection dans la conjoncture actuelle.
Mais à la limite, pourquoi les militaires ont-ils à ce point insisté pour que l'élection ait lieu ? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de laisser la place à nouveau à un civil, Ahmed Gaïd Salah, le vice-ministre, mais qui est officiellement, mais qui est l'homme fort, vous venez de le rappeler, de ce régime ? Est-ce qu'il n'a pas pris goût aussi à ce rôle de numéro un qu'il tient maintenant depuis quelques mois, quand bien même il n'est donc que vice-ministre officiellement, et voilà, il était chef d'état-major depuis 2004, il n'avait peut-être pas rêvé une telle carrière.
Bon, c'est le patron, et par exemple, indice, si vous regardez la télévision publique algérienne, l'ouverture du journal télévisé, ça se fait par son activité à lui, et non pas
l'agenda,
celle du... L'agenda, ce qu'il a fait aujourd'hui, où est-ce qu'il a prononcé un discours, où est-ce qu'il est allé. Le président par intérim, parfois, on n'en parle même pas, c'est dire.
Alors, il faut rappeler qu'il y a un président par intérim, oui. C'est le président du Sénat. Enfin, il ne l'est plus que de fait, parce que de droit, il ne l'est plus. L'intérim est terminé depuis quelques temps.
On l'appelle le président post-intérimaire, puisque son intérim s'est terminé en juillet, et que depuis, et d'ailleurs, beaucoup de gens disent que il est illégitime parce que normalement il n'est plus président, mais bon, voilà. Et pour répondre à votre question, pourquoi l'armée a tenu à organiser une élection, c'est un rôle nouveau que l'armée joue ces derniers jours, ces derniers temps, ces derniers mois. C'est-à-dire qu'elle est en première ligne. C'est Gaïd Salah qui est en première ligne, c'est lui qui fait les discours politiques, il va d'une région militaire à l'autre, il a jamais aucun officier supérieur n'a autant parlé publiquement, en tout cas en termes de diffusion publique. Donc ça fait beaucoup. Il est au centre de toutes les critiques. Les Algériens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que Ben Salah ne pèse absolument pas, que le Premier ministre Bédoui, là, plus personne n'en parle, et qu'en réalité, tout se décide par chez le général. Et c'est le général Gaïd Salah qui, d'ailleurs, en septembre dernier, a ordonné que les élections se tiennent. Et donc, il est la cible de la rue. L'armée algérienne déteste cette situation. Elle a toujours l'habitude d'avoir une façade civile, un président civil qui a, selon les cas, un certain degré d'autonomie. Mais ça s'arrête là. Et l'armée est au second plan. D'où, pour eux, l'urgence d'organiser une élection à tout prix avec le président qui va être élu, entre guillemets. On revient à une situation de normalité apparente. On est dans la Constitution. Il y a un président, il va nommer un gouvernement et l'armée sera moins en première ligne qu'elle ne l'a été au cours des 9 derniers mois.
Alors si vous dites que l'armée n'est pas comme un seul homme derrière Ahmed Gaïd Salah, est-ce qu'elle peut comprendre d'elle-même qu'elle doit se retirer du champ politique ou est-ce que la seule solution, ça passe par un renversement, un conflit entre militaires ?
Le conflit serait la pire chose qui puisse arriver à l'Algérie et personne ne le souhaite et certainement pas moi parce que c'est une institution, c'est une des rares institutions stables du pays, organisée, qui a été beaucoup modernisée et qui est d'ailleurs une institution très légaliste. Ahmed Gaïd Salah sait qu'il peut compter sur, parce que c'est une pyramide, c'est une organisation très verticale, et l'hypothèse d'un mouvement factieux ou d'un coup de force est, à mon sens, assez exclue. Je le dis à la fois non souhaitable, mais elle est aussi exclue. Donc il sait qu'il peut compter, et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi il fait le tour des régions militaires, il explique sa démarche, c'est une manière de garder la cohésion. Et ça, si vous interrogez n'importe quel Algérien, les gens sont assez sensibles à ça, se disent, même si d'ailleurs, l'un des slogans du Hirak, c'est de dire, on est frères avec les militaires, mais on n'aime pas Gaïd Salah. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles Gaïd Salah veut absolument une élection, c'est pour pouvoir avoir un peu plus la paix. La solution, elle va s'installer dans le temps. Il y a une prise de conscience chez beaucoup d'Algériens qu'il faut absolument un état civil. C'est un des slogans du Hirak. On le voit bien. Les gens disent Daoula Madania, ça veut dire état civil, ou voilà Daoula Askaria, et non pas un état militaire. Donc, ça commence à faire son chemin. Il faudra bien entendu peut-être attendre que on ait une nouvelle génération d'officiers plus jeunes. Qui n'ait aucun lien avec la génération qui a fait la révolution, comme on l'appelle en Algérie, la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, pour que les choses changent. Gaïd Salah, Et le représentant est peut-être l'un des derniers représentants de ce qu'on appelle en Algérie la famille révolutionnaire. Ces gens qui sont encore bien ancrés dans la première, voire dans la deuxième partie, dans le début de la deuxième partie du XXe siècle, qui ont une vision très très verticale des choses, très hiérarchisée, pour ne pas dire féodale, de l'organisation d'une société.
Et le Hirak, ce mouvement populaire, ces milliers, dizaines de milliers d'Algériens dans les rues, est-ce que ce mouvement peut tenir longtemps? Est-ce qu'il a les moyens de tenir? Et en l'occurrence, de faire tomber l'élection, a posteriori, puisqu'il n'a pas réussi à l'empêcher?
Alors, le Hirak a commencé en février dernier. Il a duré 9 mois, ce qui est déjà un exploit. Il a survécu à beaucoup de choses. Il a survécu au Ramadan, ce qui n'est pas simple. Il a survécu aux fournaises de l'été. Et est-ce qu'il va continuer? Je pense que oui. Je ne pense pas qu'il fasse de l'élection ou de l'annulation de l'élection un objectif. Il va y avoir des manifestations, mais pour bien résumer les choses, le Hirak n'était pas simplement contre les élections. Il s'opposait aux élections parce qu'il estimait qu'on ne pouvait pas tenir un scrutin dans les conditions actuelles. Mais la revendication première, c'est un changement de système. En gros, ça veut dire que le président qui va sortir de cette compétition va être confronté à une revendication permanente de changement. Et il y a 2 scénarios. Soit il renvoie tout le monde et on continue comme avant et donc les risques de dégradation sont importants. Ou alors, comme l'ont promis les 5 candidats, il va faire des concessions. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être quelques gestes d'ouverture pour essayer de calmer au moins une partie des manifestants.
Les candidats ont fait quelques gestes, ont promis qu'ils feraient quelques concessions, mais aucun n'a affiché en tout cas un scénario de rupture. Est-ce que ça peut passer par un gouvernement d'union nationale? Est-ce que ça peut passer par l'élection d'une assemblée constituante? C'est ça l'objectif de court terme?
Je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Il y aura très certainement des élections législatives. Il y aura peut-être une modification de la Constitution. Il y aura peut-être des mesures d'élargissement de certains des détenus. Il y a 300 détenus d'opinion en ce moment, voire plus, qui sont en Algérie, beaucoup de jeunes.
L'armée n'a pas tiré dans les foules, mais elle a procédé à des arrestations.
C'est la police. Ouais. C'est la police. Hein. Mmh. C'est la police qui est en charge de... L'armée, on ne la voit pas aujourd'hui.
Merci beaucoup Akram Belkaïd d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'Algérie en 100 questions, pays empêché. C'est aux éditions Talendier. Et puis on verra dans les prochains journaux quels sont les résultats officiels de cette élection présidentielle d'hier, vendredi, jour de manifestation en Algérie. On va également suivre ça. Merci beaucoup à Marine Beccarelli qui m'a aidé à préparer l'émission cette semaine et à Midia Portis Guérin qui l'a réalisé. Bonne journée.
Bonne journée à vous, merci.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
François Mitterrand est élu président
de la série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80. Projet Orloff, la fiction de France Culture en podcast original.
Passez-moi la communication dans le salon de bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien.
J'ai potentiellement un énorme scandale d'État.
Projet Orloff, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, sur franceculture.fr, à vos casques.
6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Hermer.
Mais bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous.
C'est l'heure de votre humeur du jour. À cette heure-ci, y aura-t-il, Guillaume, de la grève à Noël?
Mais oui, c'est la question que tout le monde se pose, tout le monde, y compris les musulmans, les juifs, y aura-t-il de la grève à Noël? Non pas que la dinde soit censée venir en métro, mais parce que vous-même, vous avez probablement prévu de prendre le train pour aller chez Tante Gisèle pour Noël, à moins que ce soit Tata Janine qui vienne chez vous. Et tous vos journaux ce matin de s'interroger pour savoir si Noël grève ou trêve, comme le dit Libération, les stratèges du commentaire politique se demandant si un Noël foutu serait imputé au gouvernement ou aux syndicats, et comme on dit dans les manifs, la gauche plutôt se dit Noël à Nation, Pâques à Matignon, Noël en jaune l'an dernier, en rouge cette année. Alors qui doit céder, le gouvernement ou les syndicalistes? Interrogé à ce sujet, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss répond sans aucun doute le gouvernement, tout simplement parce que Noël est la saison où les parents enchantent les enfants et le gouvernement, c'est un peu notre mère ou notre père à tous. Or, comme l'écrivait Lévi-Strauss dans Triste de Tropique, ce n'est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans la croyance au Père Noël. Leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous tromper nous-mêmes et à croire, puisqu'ils y croient, qu'un monde de générosité sans contrepartie n'est pas absolument incompatible avec la réalité. N'est-ce pas le moment, Julie, d'un monde de générosité sans contrepartie, sans âge pivot, avec un régime spécial universel, à moins qu'il s'agisse de sacrifier Noël une fois de plus? Le Père Noël supplicié, c'est toujours Claude Lévi-Strauss. En 1952, un fait divers intervenu à Dijon, le Père Noël avait été brûlé publiquement sur le parvis, une exécution spectaculaire qui s'était déroulée en présence de plusieurs centaines d'enfants des patronages. Elle avait été décidée avec l'accord du clergé qui avait condamné le Père Noël comme usurpateur et hérétique. 67 ans plus tard, le suspense est intact. Noël sera-t-il sacrifié? Un nouveau conte de Noël? Un joli conte de Noël, sauf que cette année, les lutins ont l'âge pivot, le traîneau s'enfuit avec les régimes spéciaux et la hotte est pleine de lignes rouges à ne pas franchir.